Bonsoir. Demain soir auront lieu à Paris les cérémonies commémorant le 73e anniversaire de la libération de la capitale. Et chaque année, à la même époque, on peut voir ces scènes émouvantes d'anciens combattants, de résistants, aux côtés de très jeunes enfants. Mais fatalement, ces témoins directs de l'histoire sont de moins en moins nombreux. Alors comment, dans ces conditions, entretenir la mémoire, entretenir ce devoir ou ce travail de mémoire? Comment enseigner ces pages entières de notre histoire à des enfants, des adolescents, connectés en direct à l'horreur des guerres modernes et du terrorisme sur les réseaux sociaux? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Tout de suite, je vous présente nos invités. Sophie Hertz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante en philosophie au lycée Langevin-Vallon à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et spécialiste des questions mémorielles. Denis Péchanski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, co-responsable scientifique du programme 13 novembre. Alors le programme 13 novembre, c'est un programme qui porte sur l'évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre. Laurent Bellini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de cabinet de Catherine Vieux-Charrier, qui est adjointe à la mairie de Paris, chargée des questions relatives à la mémoire et au monde combattant. Vous êtes un des spécialistes de ces questions et des questions également de protocole. Nous reparlerons de tout cela avec vous tout à l'heure.
France Inter, Philippe Lefebvre. Le téléphone sonne.
Et bien entendu, pour poser vos questions, pour réagir, pour témoigner, il y a le site franceinter.fr, les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson et notre standard, le 01 45 24 7000. Et tout de suite, direction le standard de France Inter où nous attend Margot. Margot, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bienvenue sur France Inter.
Bonsoir aux auditeurs.
Nous vous écoutons.
Écoutez, puisque vous parliez de devoir de mémoire, pour moi c'était une mémoire, que ce soit un devoir ou rien, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire. J'ai été vraiment un enfant caché, je suis restée 5 ans sans ma famille, avec un faux prénom, un faux nom. Et la guerre étant terminée, Deuxième Guerre mondiale, étant terminée, eh bien on savait plus très bien qui on était et tout. Et je me suis rendu compte assez facilement que si je traînais et trimbalais cette souffrance aiguë qui avait été la mienne et celle de bien d'autres, parce qu'ils étaient nés de parents juifs ou qu'ils l'étaient encore, eh bien, cette souffrance aiguë, je n'avais qu'une chose à faire, c'était de ne pas la renier, et je ne la renie pas, mais surtout d'avoir un devoir peut-être plus important que uniquement, d'abord on ne dit pas uniquement, mais je le dis, qu'un devoir de mémoire, j'avais surtout un devoir de foncer dans la vie et d'apporter tout ce que je pouvais pendant les temps qui nous sont à chacun plus ou moins impartis. Je pense que j'ai fait et je continue. Voilà, je veux dire qu'il ne faut pas pleurer sans arrêt sur les malheurs qui sont venus. Ils sont là, ils sont à côté de nous. Et puis, d'un seul coup, on dit, allez, vas-y, fonce, tu existes, il faut que tu fasses quelque chose. Et selon la profession qu'on a, selon le métier qu'on a, allez, on y va. Et c'est là que ça marche, parce que on se dit, il faut pas dire que ces choses ne recommencent pas, elles recommencent de toute façon, mais apporte ta pierre à l'édifice d'amour de toute l'humanité. Et je continuerai, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse. Je dois vous dire une chose. Et après, je ne veux pas prendre la parole longtemps.
Non, mais allez-y, Margot, pas de problème.
C'est sympa. Je suis une sage-femme, en tout cas, je l'ai été. Et j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler avec Simone Weil. Et chose curieuse, elle avait son caractère, j'avais le mien. Vous pouvez vous en douter. Bon, moi, j'étais un petit peu plus jeune qu'elle. Hein, et j'ai toujours admiré qu'elle a gardé cette histoire de vécu dans les camps. Moi, j'ai vécu dans 8 familles différentes, avec des confessions religieuses différentes. Et après, on vous remet sur le terrain et on se dit, ça y est, la guerre est finie, tu ne t'appelles plus comme on t'a appelé pendant la guerre, Marguerite, M, hein, je m'appelle Margot. C'est Cordier, parce que le nom de famille de mes parents était différent, mais on avait conservé les mêmes initiales. Et à ce moment-là, on travaille avec, je n'aime pas, mais je peux me tromper, très honnêtement, le terme de résilience, je n'en ai pas besoin. Il n'y a pas de résilience. Il y a une chose formidable, la reliance. À partir du moment où vous avez comme une lumière qui est à l'intérieur de vous, plus rien d'autre ne peut être concerné, sauf le devoir que vous avez, comme tout un chacun, qu'on soit malheureux, pas malheureux, qu'on ait été traqué, sali, est-ce que je sais moi tout ce qu'on peut avoir fait aux enfants, eh bien, je ne dis pas qu'on l'oublie. Il est là, puisque je vous parle. Alors, c'est bien que j'ai répondu au téléphone, hein. Mais, à ce moment-là, avec une joie formidable, intense, de ce que nous pouvons faire sans avoir peur et sans pleurnicher, j'allais dire une chose qu'il ne faut peut-être pas dire, je dis, au mur des lamentations, c'est non.
Merci, merci beaucoup Margot pour ce très très beau témoignage. Denis Péchanski, avant qu'on arrive dans ce studio, on a discuté un petit peu et je sens bien que le devoir de mémoire, c'est un terme qui vous agace un peu.
C'est un débat ancien, les historiens en général préfèrent parler de travail de mémoire au travail d'histoire. Et en particulier parce qu'il y a derrière une forme d'obligation morale et quand on entend votre témoin qui est une ancienne enfant cachée, extrêmement émouvante et qui raconte son processus de reconstruction, aller vers l'avant après la guerre, on voit bien que on n'est pas du tout dans ce registre-là. Et disons que quand on voit ce qui se passe depuis la Deuxième Guerre mondiale et quand on a vu ce qui s'est passé avant, on est quelque peu sceptique sur la notion d'obligation morale, de devoir de mémoire, en tout cas de son efficacité. Donc je préfère une mobilisation intellectuelle intelligente dans l'appréhension, l'appropriation du passé.
Sophie Ernst, même question pour vous, plutôt travail de mémoire, devoir de mémoire?
Moi, justement, au contraire, enfin, je comprends très très bien la position des historiens et en tant qu'historien. Et après, une fois qu'on n'est pas dans le travail sérieux d'élaboration, de rationalité, de reconstruction du passé, il n'empêche que dès qu'il est question de transmission, tout est traversé de part en part du problème de la morale et du devoir. Que dois-je faire dans le présent? Le problème du devoir de mémoire, c'est que c'était du pur moralisme qui laissait très facilement, avec quelques larmes et d'apitoiement, qui laissaient croire aux gens que, rétrospectivement, ils auraient certainement été du bon côté. Parce que qui peut s'identifier à un nazi qui beugle, sanglé, beauté et tout? Bien sûr, on est du côté d'Anne Frank, dont tout le monde pense que c'est tout. C'est ce devoir de mémoire qui était vraiment très... tout. Après, je trouve que c'est quand même insuffisant. Je trouve si on prend... pour moi, en tout cas, parce qu'on n'est pas dans la même logique de situation, je suis... enseignante, et en plus, vous avez dit que j'étais professeure de philosophie, j'ai été malade et du coup j'ai bénéficié d'un aménagement de poste qui fait que je ne me suis pas retrouvée dans la position de quelqu'un qui prépare au baccalauréat avec un programme rationnel, une formation, tout. Je m'occupais des parcours artistiques, culturels et les parcours du citoyen dans des logiques d'accompagnement de projets et d'être sur le versant de ces parcours. J'étais entièrement dans l'éducation morale et civique. Et c'est cet angle-là, moi, où je pense que, de fait, cette histoire de morale... c'est la morale. C'est la morale qui se réfère au passé. C'est l'interrogation sur qui suis-je et que dois-je faire là tout de suite par rapport à la situation présente. Donc en fait, je crois que dire le travail de mémoire pour évacuer l'obligation morale, oui, méthodologiquement, tant qu'on fait de l'histoire. Oui, dès qu'on est dans de la commémoration, dès qu'on est dans de la transmission, dès qu'on est dans du dialogue avec les adolescents, c'est que dois-je faire pour être quelqu'un de bien? Que dois-je faire pour pas être un salaud? Que dois-je faire alors que on est submergé par le sens du scandale, quoi?
Alors justement, Laurent Bellini, ça se passe comment à la mairie de Paris quand on travaille sur ces commémorations? Demain soir, sur le parvis de la mairie, 73e anniversaire et cérémonie donc pour se souvenir de ce qui s'est passé, la libération de la capitale. Comment on travaille sur cette mémoire certains parlent du devoir, certains parlent du travail de mémoire.
Alors nous, on est très sur le travail de mémoire et même un travail sur la mémoire, en fait, dans le sens où on s'interroge sur la façon de partager avec le plus grand nombre cette mémoire et sur les moyens qu'on a à disposition et les moyens qu'on va se donner pour partager cette mémoire. On sait très bien, comme vous l'avez dit, que les témoins sont de moins en moins nombreux. Il faut que la disparition progressive de ces témoins, finalement, nous serve, soit un véritable atout pour travailler sur leur mémoire et la partager avec le plus grand nombre. en créant des outils de transmission. On a créé plusieurs outils pédagogiques à destination des jeunes parisiens.
Par exemple ?
Par exemple, au moment où on a commémoré le 70e anniversaire du retour des déportés, ça correspondait aussi au 100e anniversaire du génocide arménien et peu ou prou au 20e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. On a créé un outil pédagogique qui s'appelait « Construire le monde d'après » pour expliquer à des jeunes élèves de CM2 et aux élèves de collège finalement comment identifier une politique génocidaire, quels sont les premiers signaux, qu'est-ce qui fait qu'une population ciblée va être plus ou moins écartée d'un certain nombre de choses et comment l'engrenage se met en route. Et à ce moment-là, on essaye de recréer un esprit critique dans les esprits des jeunes pour qu'ils soient à même de s'alerter et d'alerter à leur tour les risques d'une politique génocidaire. Donc on a fait ça sur les génocides, on a travaillé l'année dernière sur la Marseillaise, on va travailler sur les Compagnons de la Libération l'année prochaine avec la notion d'engagement et de jeunesse qui ne veut pas accepter cet armistice de juin 40. Donc on essaye de trouver des moyens qui vont intéresser, sensibiliser les jeunes générations à des questions qui pourraient leur paraître extrêmement lointaines et complètement déconnectées de leur réalité quotidienne.
Mais alors, Sophie Hertz, vous qui êtes au contact des jeunes, ils ne sont pas, je le disais tout à l'heure en ouverture de cette émission, gavés d'informations. Ils prennent leur smartphone, ils ont toutes les horreurs du monde en mondiovision, ils peuvent... La mémoire, tout ça, la Seconde Guerre mondiale, ça leur passe un peu au-dessus de la tête, non ? Ils ont les guerres modernes qui sont beaucoup plus médiatisées.
Non, pas du tout. C'est nous qui sommes mal à l'aise parce que je pense que, j'ai déjà 60 ans et moi je viens d'un monde où quand j'étais en formation, on avait peu d'informations, enfin il n'y avait pas du tout cette explosion des images, des discours, de tout. Donc on est désemparé, on ne comprend pas très bien comment ils fonctionnent. C'est vrai que c'est une donnée massive de l'éducation actuellement que on lance volontairement, et moi je travaille exactement dans le même sens que ce qui nous est proposé, et sans ces propositions institutionnelles locales, dirigées par une politique de la mémoire des institutions, nous on n'aurait pas de levier pour s'appuyer dans les établissements scolaires. Ça nous est indispensable. On sait que ces propositions où nous, où on a un volontarisme, ça va faire des résultats totalement improbables et très difficiles, avec tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils entendent dire, leur histoire familiale, les discours, les malentendus, le film qui va prendre sens et tout. Mais dire qu'ils y sont indifférents, absolument pas. Ça, je l'ai expérimenté depuis 8-9 ans que je suis TZR et que je circule dans les établissements scolaires. Chaque fois qu'il y a une parole forte d'adulte en direct qui prend du temps... au contraire, ils marchent, ils en redemandent. Les commémorations, nous, à Champigny, à la fin, mes deux collègues, la Martine Mancé et Isabelle Galloni, en étaient sidérés parce que c'est eux qui ont redemandé quatre fois de suite à aller aux journées de commémoration, le dimanche matin, faire quelque chose.
Alors justement, sur ces commémorations, on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on aille au standard retrouver Jacques. Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Fontenay-le-Comte. Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Voilà, ce que je voulais vous dire est très simple. Dernièrement, ça fait partie d'un vécu, c'était au moment des élections du 18 juin, j'étais assesseur, et le maire à 1h de l'après-midi est arrivé après avoir commémoré le 18 juin. Et la première chose qu'il m'a dite en s'asseyant à côté de moi, il me dit « De toute façon, je suis scandalisé. Il y avait les pompiers, il y avait les gendarmes, j'avais deux anciens combattants, et puis j'avais deux personnes. C'est-à-dire que aucun enfant, aucun adolescent, aucun adulte, aucun civil de la ville de Fontenay-le-Comte. » Et il me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, je lui dis « Monsieur le maire, c'est normal. » Alors il m'a regardé et puis il me dit « Mais pourquoi c'est normal ?» Mais je lui dis « C'est normal parce que maintenant, dans les écoles, on n'apprend plus aux enfants qu'ils font partie d'une école, d'une société, d'une ville, d'une nation et que cette nation a une histoire et que cette histoire leur appartient. Et à partir de là, ils vont passer 3 heures sur leur smartphone ou devant la télévision, mais ils se foutent éperdument de savoir que ce jour-là, le général de Gaulle rentrait dans Paris.
Alors Jacques, on va aborder le 18 juin, le général de Gaulle lançait un appel, mais il rentrait pas à Paris, enfin a priori, ou alors c'est un autre 18 juin. Mais Laurent Bellini, c'est pas tout à fait vrai, on constate des choses, par exemple à Fontenay-le-Comte, mais pas forcément à Paris.
Effectivement, on a interrogé le Conseil parisien de la jeunesse sur leur perception des commémorations et du travail sur la mémoire. Et on a été extrêmement surpris de leur réaction. Ce sont des jeunes qui sont intéressés par leur histoire, qui ont envie de la connaître, qui ont envie de s'en nourrir. Alors, probablement, dans des circonstances très différentes de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, je suis pas certain que les faire assister à un dépôt de gerbes devant un monument aux morts, ça les passionne réellement. Mais si on entoure ce dépôt de gerbes au monument aux morts d'autres choses, où on les rend extrêmement actifs, où on leur demande des propositions, où ils sont les acteurs de cette mémoire qu'ils s'approprient, là, on les intéresse véritablement. Et le fait est que sur le 25 août, sur cette commémoration de la libération de Paris, ils nous ont fait des propositions qu'on va tenter pour une certaine partie d'entre eux, mettre en œuvre dans les années qui viennent.
Denis Péchanski ?
Oui, je suis assez dubitatif devant le discours très réactionnaire au sens de faire référence à une sorte de passé idéal où les commémorations étaient suivies par des écoles entières. Le problème, c'est pas de savoir si on doit faire une commémoration ou pas. Les commémorations sont nécessaires pour se reconstruire et se reconstruire individuellement et le reconstruire le groupe y compris la société française dans son ensemble. Donc la question ne se pose pas. Le problème, c'est le type de commémoration. Il est clair qu'il faut s'adapter à une société qui évolue, à une circulation de l'information dont on a dit les uns les autres que ça avait pris une dimension évidemment une augmentation exponentielle qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaissait il y a même 10 ans ou bien sûr 30 ans. Et donc la question de se pose pas dans ces termes-là. Je rajouterais que pour avoir été dans les établissements scolaires pour spécialisé à la Deuxième Guerre mondiale, donc j'y allais c'est régulièrement, et j'y allais avec des témoins. Je continuais, alors malheureusement, il y a peu de survivants maintenant de la Seconde Guerre mondiale, il y en aura de moins en moins, mais la force du témoignage auprès des gamins est extraordinaire. Même 70 ans après, il y a quelque chose qui passe que nous, historiens, n'arrivons pas à faire passer, bien entendu, parce qu'on est dans le domaine de l'analyse rationnelle. Alors, on pourra faire des choses, mais il manquera cette dimension-là qu'on a senti à chaque fois qu'on allait et qu'on va dans les établissements scolaires avec un témoin. Vous savez, j'ai la chance de participer à quelque chose que je trouve tout à fait extraordinaire, initié par le préfet de police de Paris. Tous les gardiens de la paix de Paris passent une journée au mémorial de la Shoah. Ils regardent un film qui s'appelle « La police sous l'occupation » et qui ne leur dit pas vraiment que la police était entièrement résistante. Ils écoutent un témoin qui ne leur dit pas qu'elle a été arrêtée ou qu'il a été arrêté par un Allemand. Ils écoutent un historien qui, évidemment, dit ce qu'il a été de la police sous l'occupation dans sa complexité. Bon, Et c'est pas par une sorte de devoir de mémoire, c'est pour essayer de comprendre, parce qu'ils ne sont pas, on revient sur la question du devoir et de la une sorte de pseudo-responsabilité collective, ils ne sont pas responsables de ce que leurs collègues ont fait 70 ans avant. En revanche, ils doivent comprendre ce que, dans leur position, certains ont fait sous l'occupation pour pouvoir agir aujourd'hui. Et ça, c'est une donnée que je trouvais assez, assez essentielle.
Laurent Bellini.
Je crois aussi qu'il faut s'appuyer sur les lieux de mémoire. Avec la disparition des témoins, il y a une grande partie de la sensibilité, comme le disait M. Péchanski à l'instant, qui s'en va et qui va manquer dans l'approche mémorielle. Si on se retourne vers les lieux de mémoire, si on s'y rend sur ces lieux de mémoire, et à Paris et en Ile-de-France, on en a un certain nombre, on peut percevoir aussi tout ce qui a pu se passer et comprendre également les grands moments, qu'ils fussent glorieux ou un peu moins, de notre histoire. Donc, je crois aussi qu'il faut inciter les jeunes et les moins jeunes à se rendre sur des lieux comme le Mont Valérien, la clairière des fusillés au Mont Valérien, c'est un lieu extrêmement particulier. Aller à Drancy, aller sur le camp des Milles, aller au mémorial de la déportation comme au mémorial de la Shoah dans le 4e arrondissement. Le camp du Struthof en Alsace, quand on y va, on en ressort là non plus pas indemne, et ça donne une perception extrêmement intéressante aux jeunes générations de l'histoire. On fait de l'histoire autrement.
Sophie, moi je voudrais qu'on revienne sur ce que vous nous disiez tout à l'heure sur ces enfants qui en redemandaient, si je puis dire, qui voulaient assister à des cérémonies. Vous y êtes pris comment concrètement pour que le message passe et qu'ils s'intéressent à tout ça?
Il y a à chaque fois des propositions d'autres institutions comme celle que représente très bien Monsieur Bellini ou des historiens. Il y a en particulier quelque chose qui s'appelle le Concours national de la résistance et de la déportation. Et avec dans le Val-de-Marne, c'est très fortement encouragé avec des gens très précieux. Du coup, les profs ont des historiens sur lesquels s'appuyer, des archives, des propositions d'aide qui nous permettent de vraiment nous appuyer sur des choses très certaines. On n'est pas livrés à nous-mêmes. Et du coup, moi, le lycée où je suis, c'est une affaire collective. Les gens qui ont lancé les projets, c'était pas du tout moi, qui me sentais presque trop concernée en tant que petite fille de déportée. J'ose pas prendre l'initiative. Mais là, c'était des collègues de maths, de gestion, et ils ont embarqué tous les profs des sections professionnelles et technologiques. C'était pas du tout les classes d'élite qui s'y lançaient. Et c'était justement des gamins qui sont très souvent montrés du doigt comme étant rétifs à cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, on raconte sur eux toutes sortes de choses, et c'est faux. C'est faux, c'est pas ça. Comme élèves, ils sont pas toujours très sages, mais c'est pas le problème n'est pas tout ce qu'on dénonce dans les dans les médias ou sur la place publique, et pas forcément les journalistes eux-mêmes. Mais donc, ils ont fait toute une série d'activités. Ce qui est bien, c'est que c'était très varié, et ça s'adressait. Il y avait des apports de connaissances, il y avait des déplacements aux archives. Il n'y a pas eu de grands voyages. Il y a eu des petits déplacements. On a fait aussi, j'ajoute à la liste que vous avez donnée, nous on est aussi passé par l'artistique. On est allé au théâtre. On a travaillé avec une troupe de théâtre qui montrait un spectacle vraiment très dur, Notre Classe, montée par Justine Wojtyniak. Et c'est là, c'est presque les comédiens, très jeunes eux-mêmes, qui ont assumé le rôle presque de témoin, parce que après la représentation, on les a préparés à la représentation, ils sont venus, et la metteuse en scène a raconté pourquoi elle, en tant que jeune polonaise, elle était extrêmement investie dans ce travail de mémoire. Et tu vois, pour compléter sur l'histoire des témoins, c'est pas simplement des témoins. On peut témoigner en jouant sur le mot, pas le témoin au sens de celui qui vient dans un procès raconter ce qu'il a vu, mais quelqu'un qui témoigne comme sujet de ce qu'une réalité le pousse à ressentir et à penser. Et cette parole engagée, elle est pas du tout de la posture de quelqu'un. C'est pour ça que je dis bien, je suis pas dans mon rôle de prof de philo qui prépare à la dissertation de philosophie. Là, on se met en posture témoin et on dit tout. Et ça, c'est les comédiens qui l'ont fait en discutant avec les jeunes de leur rôle, quelle était l'interprétation des rôles qu'ils jouaient, qu'est-ce que c'était, quelles étaient les différentes possibilités devant l'histoire. Ils ont fait quantité de choses. L'année prochaine, moi, je leur propose de faire une chorale qui va s'appeler « Chantons la libération ». Et on va commencer par la Marseillaise et terminé par le chant des partisans.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Telson ».
Allez, on retourne au standard, direction Saint-Omer, où nous attend Loïc. Loïc, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci. Voici ma question. Le travail de mémoire et les commémorations souvent sont très importantes, car elles nous ont impactés directement en France, 14, 18, 39, 45. Moi, je voulais savoir s'il y avait un travail important qui était fait sur des conflits comme la guerre d'Algérie, ou l'Indochine aussi, ou d'autres conflits, où la France a impacté d'autres pays. Je voulais savoir quel était ce travail et ces commémorations qui existaient. Voilà.
Denis Péchanski, quelle réponse on peut apporter à Loïc ?
Oui, il y a tout un travail de fait, mais ça se fait toujours avec un certain décalage. D'abord, compte tenu de la posture de l'État vis-à-vis de ces événements, que ce soit la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. On a pris, je vous rappelle, beaucoup de temps avant d'appeler guerre d'Algérie la guerre d'Algérie.
C'était les événements.
Ouais. Et donc, ça n'est pas un hasard. Là, vous avez ce qu'on appelle la cité de l'immigration, changé de titre, mais peu importe, connue comme telle, à la Porte Dorée, qui joue un rôle extrêmement important dans cette mémoire-là, et en particulier... avec Benjamin Stora à sa tête, ou bien au mémorial de Rivesaltes, qui lui parle, certes, comme c'était un camp d'internement pendant la guerre, des internés pendant la guerre, mais aussi, parce qu'il y a eu des harkis entre 62 et 64, parle de la guerre d'Algérie.
Alors, Laurent Bellini, c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui d'organiser, de penser des cérémonies de commémoration, notamment pour tout ce qui est guerre d'Algérie, parce que ça reste malgré tout un sujet très sensible bien des années après.
Ça reste effectivement un sujet très sensible, mais on a des moyens pour aborder la guerre d'Algérie qui sont tout à fait intéressants et pour évoquer ce que les gens ont pu vivre à cette période. On a par exemple l'année dernière, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, organisé une projection débat à l'Hôtel de Ville autour d'un documentaire qui s'intitule « À cet inconnu que j'aime ». C'était l'histoire des marraines de guerre et dans le documentaire on voit essentiellement des marraines de la guerre d'Algérie et c'est très très intéressant de voir comment le public a réagi en découvrant cette histoire des marraines de guerre. Donc on essaye, on a des commémorations traditionnelles avec devant les monuments qui sont au Père-Lachaise et qui rappellent les victimes. On a inauguré encore l'année dernière un monument dédié aux disparus des Abdélis, qui est un petit moment assez méconnu de la guerre d'Algérie. Mais on a aussi ces moments particuliers de rencontres autour d'un thème qui est lié à ce conflit et qui permet de faire avancer les choses et de faire connaître un peu plus les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce conflit.
Alors, on retourne au standard, on va retrouver Eric. Eric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Justement, votre question, elle est en plein dans ce dont nous sommes en train de parler.
Oui, ma question est en plein, mais je voulais juste réagir parce qu'il y a un de vos intervenants qui a indiqué qu'à la préfecture de police de Paris, on leur passe des films relatant l'histoire de la police sous l'occupation, non pas pour les culpabiliser, mais pour leur dire que ça existait. Je trouve que ça serait très intéressant qu'ils fassent de même avec les policiers qui sont en charge des migrants à la frontière italienne.
Bon, ça c'est votre avis, c'est un autre débat. Alors, votre question sur le débat de ce soir.
Ma question, le devoir de mémoire ne risque-t-il pas d'être sélectif? Parce que, comme on le sait bien souvent, l'histoire est racontée par les vainqueurs, c'est les chasseurs qui racontent l'histoire de la chasse, c'est pas les lapins. Et donc j'aurais voulu savoir comment l'intervenant précédent a parlé de la guerre d'Algérie. Certes, il y a un devoir de mémoire en France sur la notion de guerre d'Algérie, mais dans la mesure où il y a un devoir de mémoire aussi en Algérie pour les Algériens par rapport à cette guerre-là, j'aurais voulu savoir comment... Voilà, on sait très bien que le devoir de mémoire par rapport à la Shoah, et Pierre Vidal-Naquet en a beaucoup parlé, a été quelque chose qui s'est mis en place et qui est en place, qui est effectif, mais il y a beaucoup d'événements historiques dont on ne parle pas, et je veux pour cause... Il y a 3 ans, on fêtait le 100e de la mort de Jean Jaurès et on n'en a pratiquement pas parlé.
Alors, Denis Péchanski, sur ce que disait Loïc de Saint-Omer, la mémoire, c'est forcément la mémoire des vainqueurs?
Non. Non, non. Non, non. Et d'ailleurs, vous avez suffisamment de diversité dans la société française parmi les élus, parmi les historiens, parmi les journalistes pour parler de ceux qui ne sont pas nécessairement les vainqueurs. Ce même quelquefois, on l'entend bien par le discours qui vient d'être tenu, c'est même quelquefois instrumentalisé pour porter une action tout à fait respectable, la question n'est pas là, mais qui est une action d'aujourd'hui. Et effectivement, la dénégation d'une réalité fait partie aussi d'une forme de jeu qui quand même devrait nous interroger. Il faut qu'on travaille dessus, on travaille sur des périodes qui sont quand même pas très simple, quand on dit on ne parle jamais de Vichy, bon, ça fait quand même 30 ans qu'on n'arrête pas de parler de Vichy, on parle pas de la collaboration, on n'arrête pas d'en parler, on parle pas des camps d'internement, vous avez maintenant 4-5 grands lieux mémoriaux sur les camps d'internement en France, on parle pas des victimes de la guerre d'Algérie ou des Algériens, on en parle bien entendu, etc., etc. Donc suivant les moments, suivant les périodes, bien entendu, l'accent va être mis sur sur tel ou tel événement, telle ou telle catégorie. Mais je pense qu'il faut revenir sur cette vision un petit peu simpliste, il me semble.
Laurent Bellini.
Commémorer, c'est un acte redoutable si on n'y prend pas garde, parce que sortir un événement de son contexte et le mettre à la sauce de celui qui va le commémorer, effectivement, ça peut être extrêmement dangereux. C'est pour ça que le travail sur la mémoire est passionnant, parce que justement, on va se mettre sur un événement historique en particulier, et puis on va voir comment, sans le sortir de son contexte, on peut le faire comprendre avec l'actualité d'aujourd'hui. Et c'est finalement ça qui est passionnant. Dans mon travail, en tout cas.
Alors, il y a une question. Oui, Sophie Ernst.
Moi, je trouve que ce que la question pointe, je partage les réticences de Denis Péchanski, bien sûr, mais c'est aussi que, forcément, c'est qu'il y a une démultiplication, justement, des sujets de l'histoire récente de cet horrible XXe siècle si effrayant, qui ont vocation à démultiplier le devoir de mémoire, les commémorations, et on n'en sort pas. Et ça, c'est un véritable problème, je trouve, par rapport à nous qui sommes en posture d'assumer le monde devant la jeunesse. Et c'est pour ça que je m'attache tellement à ces parcours artistiques et culturels et citoyens, parce qu'on a, et là on retrouve la question du travail de mémoire, comme un affiner le parcours, affiner leur sensibilité de manière très... de s'intéresser vraiment à l'histoire comme culture, comme une culture où, avec le sens de la complexité des choses. Mais on sent bien qu'on ne peut pas non plus les saturer de ce pessimisme et de leur donner à l'entrée dans le monde adulte et de l'engagement de toute leur force de jeunes dans le monde adulte et dans les responsabilités, de leur dire gardez-vous de ceci, gardez-vous de cela, et en plus n'ayez pas peur aux attentats, mais n'ayez pas peur, hein, de telle façon c'est totalement anxiogène. Donc il faut quand même aussi qu'on transmette la mémoire de ce qui est optimiste et heureux. Et je trouve que quelle chance j'ai eue, moi, d'avoir été biberonnée à la Révolution française dans ce qu'elle avait, dans ce qu'elle portait de promesses et pas simplement de réalisations. Et je trouve que la mémoire de la Révolution, y compris lorsqu'on adjoint dans la Révolution française tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été des trahisons, par exemple, sur l'esclavage, et puis toutes les trahisons de la République après, par rapport au grand message idéaliste. Bon, d'accord, mais ça, je trouve que c'est une dynamique de long terme de nos sociétés, qui est un bel idéal et une belle promesse. Et je crois qu'on ne pourra pas continuer à multiplier les appels à la mémoire des crimes du passé si c'est pas assorti aussi d'un appel à surmonter les manches, à faire concrètement des choses, tous ensemble, pour bâtir un avenir plus beau.
Alors, tout à l'heure, avec vous, nous parlions des monuments aux morts, des commémorations et des enfants, des collégiens, des lycéens qui pouvaient venir. On va parler aussi d'un autre sujet un petit peu sensible, c'est celui des musées. Il y a un message d'Isabelle sur le site franceinter.fr. Je vous le lis. En vacances en Ardèche, mes enfants ont fait le choix d'aller au musée de la déportation et de la résistance. Ils ont été très attentifs, pour peu qu'on leur en donne l'occasion. Ces thèmes les concernent fort. C'est vrai qu'il faut aussi peut-être un petit peu dépoussiérer certains musées, les rendre un peu plus modernes, Denis Péchanski.
Ça se fait déjà depuis un certain nombre d'années. C'est une vraie révolution même qui s'est faite dans le monde de la muséographie depuis, je dirais, 25-30 ans, qui s'est accélérée. Évidemment, qui doit prendre en compte toutes les nouvelles technologies auxquels sont particulièrement sensibles les jeunes aujourd'hui. Mais je crois que maintenant, ils disposent de lieux, je pense aux mémoriaux, puisqu'on parlait de Champigny, il y a le musée de la Résistance nationale, en plus qu'il serait reconstruit sur un nouveau site, vous avez le mémorial de Caen, il y a toute une série de lieux qui permettent, effectivement, qui sont des points d'accroche. Ça, c'est très important, le témoignage qui a été donné sur ces vacances en Ardèche, parce voilà. Que sur Paris, partout, sur la France, partout, vous avez des lieux où vous pouvez, comme ça, accrocher votre volonté de comprendre. Vous savez, alors ça c'est aussi parce que je travaille avec des amis psychologues et neuroscientifiques, là, sur le 13 novembre, mais vous avez deux circuits différents. Vous avez un circuit qui fait appel à l'émotion, qui renvoie à l'amygdale, et vous avez, pas celle qu'on connaît, hein, je ne conseille pas d'enlever celle-là. Mais et vous avez le cortex préfrontal qui est médian, qui est le lieu de la rationalité, de l'analyse. Et c'est l'articulation entre les deux qui est intéressant. Si on fait appel uniquement à l'émotion, il manque l'analyse. Si on fait appel uniquement à la rationalité, il manque l'appréhension de la réalité du quotidien et de la réalité du vécu.
Alors, nous allons retrouver maintenant Francis au standard du téléphone sonne. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci, bonsoir à toutes et à tous, je vais être rapide. Je suis allé à Verdun, donc qui dit Verdun dit jusqu'au Chemin des Dames, les Éparges, Vacquois, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà... Et je pense que c'est bien de commémorer, mais aller sur le terrain, c'est très bien aussi. Ce qui m'a surpris, c'est l'attitude, je vais faire une amalgame, hein, ou l'amalgame, c'est l'attitude en général, je dirais, du touriste ou des gens qui sont sur place. Que de téléphones portables, que d'appareils photo, drones également sur le terrain. Je trouve pas ça correct, en fait, c'est mon point de vue. Les balades avaient été entre les tombes également. Ça m'a surpris. Je ne savais pas également que les monuments étaient tenus par des associations. Et ma question est simple, alors que fait l'État qui nous demande de faire un devoir de commémoration? Au revoir.
Alors, on va déjà vous parler de la gestion des sites, Laurent Bellini. Pas tous, pas
les... Tous les sites ne sont pas aux mains d'associations. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la Première Guerre mondiale, à la sortie de la Première Guerre mondiale, il y a énormément d'associations qui se sont emparées de sites pour les entretenir et pour perpétuer la mémoire de ce qui s'y était passé. Mais l'État joue un grand rôle dans ces lieux de mémoire en subventionnant un certain nombre de choses. Et puis, il y a tous les musées nationaux qui parlent de cette mémoire contemporaine. Donc, on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. Les collectivités assurent largement leur part également, et la ville de Paris en particulier, qui accorde tout au long de l'année un certain nombre de subventions à de grandes institutions, comme le mémorial de la Shoah par exemple, comme le mémorial de Verdun plus récemment. Donc on sort aussi de notre territoire parce que la mémoire, elle est collective, elle est universelle et elle est partagée par le plus grand nombre.
Sophie Ernst, je voudrais votre sentiment sur ce que disait notre auditeur à l'instant, sur le côté les touristes qui sont avec les perches de selfie, les drones, que sais-je encore, ou les parcours de VTT à travers les lieux. Vous ressentez comment? C'est un mal nécessaire, le tourisme, malgré tout, pour pas qu'on oublie complètement?
Oh, j'en sais rien, c'est pas tout à fait là-dessus. Je me suis toujours sentie pas tout à fait à l'aise. Du coup, même quand on a eu à faire des voyages, des excursions, pour moi, ce qui est assez important, c'est la qualité des échanges de paroles entre les adolescents, être à leur écoute, et qu'il y ait un milieu d'adultes suffisamment affiné sur la question pour que justement... Ce que soulignait Denis Péchanski avec beaucoup de justesse, il n'y a pas d'émotion sans mots, sans un travail sur le mot juste, sur la justesse, sur des mises au point de connaissances et sur un rebondissement dans une réflexion ininterrompue. Vraiment ce qu'on peut appeler la culture. Ils apprennent des choses, ils ont des vécus par rapport à tout ce qui se fracasse sur eux. Mais il faut des adultes pour accompagner ces passages-là. Après, les téléphones portables, la façon de se tenir. Nous, on a eu comme ça. Ils sont allés. On est 3-4 groupes écouter un ancien déporté. C'était magnifique. Ceux qui ont été attentifs ont beaucoup aimé. Il y en a beaucoup qui ont fait un peu comme ils font d'habitude, mais comme ils font avec nous, de manière très très innocente, quoi. C'est des générations qui tiennent pas,
qui tiennent pas en place.
Ils tiennent pas en place. Et ils se rendent pas compte que les portables, que si, que ça. Ils se sont fait remonter les bras. Moi, j'aurais été assez indulgente. Parce qu'après tout, je pense qu'on ne peut pas forcer les gens, justement, à un devoir d'écouter les témoins s'ils ne s'en sentent pas capables. Les collègues n'ont pas supporté, donc ils se sont autorisés. Je dirais presque, c'est comme être humain, presque encore plus que comme prof. Ils étaient scandalisés de leur attitude, donc ils leur ont remonté les bretelles très très durement. Ils ont exigé, ils les ont exclus pendant une semaine des activités aux archives départementales. Les gamins étaient extrêmement vexés d'être exclus des archives et c'est reparti finalement de plus belle. Et ils étaient contents et c'est tout ce travail qui a fait qu'ils ont voulu après adhérer à la démarche d'aller en commémoration en se tenant bien. Et pour faire honneur à leur lycée, pour faire honneur à ceux qu'ils sont eux-mêmes. Et parce que aussi, et cette histoire d'attitude finalement... ça valait le coup de travailler dessus. Mais vous voyez, je crois que quand on parle de travail de mémoire, ce travail d'éducation morale, c'est des ajustements qui porte absolument sur tout, sur le rapport à autrui, sur le mot juste, sur la connaissance, sur ne pas dire n'importe quoi, ne pas faire n'importe quoi. Là où je dirais qu'il y a un petit quelque chose en plus, et c'est ce que vous disiez, c'est qu'ils fassent quelque chose, qu'ils soient actifs, qu'ils puissent jouer un rôle. Ils sont beaucoup trop... On leur
plus
demande
spectateur
trop...
spectateur passif qu'acteur.
Voilà.
Denis Péchanski.
Oui, sur les acteurs, on a vu. L'État intervient, il est indispensable. On sait le rôle de la direction patrimoine, mémoire, archives, la DPMA, aux anciens combattants, le rôle de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants. Ils ont un rôle décisif dans le maintien, l'organisation de cette mémoire des guerres et des traumatismes. Bon, on sait le rôle majeur des collectivités territoriales. Parce que ce sont les collectivités territoriales qui ont porté, pour l'essentiel, les grands mémoriaux qui se sont construits dans les 20-30 dernières années. Bon, et puis le rôle des associations est essentiel parce que comme on se dit toujours quand on est, il s'avère que je préside le conseil scientifique de trois mémoriaux, mais quand on est là, on se dit mais comment on va faire pour que la population s'approprie ce mémorial, s'approprie le discours qui est tenu et les activités qui sont présentées, eh bien ça passe aussi par les associations qui sont des relais de ce qu'on appelle la société civile. Donc faut pas du tout dire que les associations sont un point négatif dans ce dispositif global.
Alors, Laurent Bailly, il nous reste pratiquement une minute avant le flash. Demain soir, l'Hôtel de Ville, qu'est-ce qui va se passer et à quelle heure?
Alors, on fait une synthèse entre l'appel à l'émotion et la profondeur du mot en proposant un concert mémoire qui va se voir alterner des lectures de textes qui sont complètement liées au second conflit mondial, et on va aller jusqu'à la semaine insurrectionnelle et la libération de Paris, bien entendu, avec des musiques qui évoqueront un certain nombre de thèmes, qui évoqueront l'occupation, qui évoqueront la déportation, qui évoqueront la résistance, le tout interprété par l'Orchestre d'harmonie de la Garde républicaine et quatre merveilleux comédiens. C'est à 18h sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et j'invite tous vos auditeurs à nous rejoindre pour ce moment assez exceptionnel, j'en suis persuadé.
Avec beaucoup de jeux de lumière, avec beaucoup de choses.
Non, on est dans quelque chose de plutôt sobre cette année, donc pas de grands jeux de lumière, pas de mapping, on est vraiment dans la sobriété, dans la profondeur et dans la réflexion également.
Eh bien on y sera, merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission, je vous retrouve au téléphone sonne demain soir, nous ferons le bilan de l'été côté tourisme. Très bonne soirée sur France Inter.